Et que ça commence à sentir les chips, les ailes, les bâtonnets de poulet, les bâtonnets de poulet, les bâtonnets de fromage. Tu sais, ça, j'aime ça. Quand je vais dans un stade, là. Mais même aussi les fameux, comment on appelle, les filets de poulet, les chicken tenders. Ça, j'adore ça. Je pourrais goûter à ça dans tous les stades. Les hot dogs, les hamburgers, le tailgate. On est à la bonne place. Et là, avant d'introduire notre collaborateur et ami Nicolas Richard à la conversation, Olivier, le détective Pimento, a nivelé la marque, n'est-ce pas? Dans notre concours Bet 99, notre petit duel, parce qu'hier, il avait pris le CF Montréal pour l'emporter. Et moi, j'avais pris, j'avais pris le rouge et noir d'Ottawa pour... non, c'est pas vrai. C'était l'over-under des points, qui était à 50.5. Je l'ai eu aussi.
Oui.
Je pensais que j'avais pris contre le spread. C'est toujours 2-1.
Ouais. Match défensif.
J'avais perdu. Match très défensif. Je l'ai eu.
Tu te sens mieux, là?
Je me sens mieux. J'ai pas assez d'affaires à penser. Nick Richard, comment ça va, mon chum?
Ça va très bien, messieurs. Merci. Et pour ton info, Greg, je suis plus de type nachos en mode tailgate.
Nachos. Est-ce que toi, t'es nachos classique, c'est-à-dire avec simplement un petit peu de salsa et peut-être une petite sauce au fromage fondu, ou t'es du type, comme moi, nachos loadé pas possible?
Je suis de type all dress. Oignon, viande, olive, piment fort, tout ce que tu veux. À peu près tout ce qu'il y a dans ton frigo, tu le mets dans tes nachos et tu dégustes.
Et fromage. Tu sais, les sacs.
Absolument.
Les sacs
avant
Costco,
et
là.
Après.
Exact. Deux étages de fromage. Et je suis surtout heureux parce que il y a beaucoup de mes amis qui ne partagent pas ma passion pour les olives. Alors, je suis content que tu aies cette
tous
passion-là
les jours,
aussi.
Trois fois par jour.
Bon, on est pareil. On est pareil. Je savais qu'on était fait pour s'entendre. Toi et moi, on est un duo de choc.
Voilà.
Solide performance en défensive. Je suis tellement heureux que les Alouettes nous aient surpris de cette façon-là hier.
Je te trouve très positif. Puis je commence ma chronique, les gars, en vous posant une question à Greg et à Oli. Sur une échelle d'1 à 10, à quel point êtes-vous confiant de voir les Alouettes gagner l'Association Est pour se rendre à la Coupe Grey présentement?
Pas particulièrement de mon côté. Avec la performance de l'attaque depuis quelques semaines, tu peux pas seulement te fier à ta défense pour gagner un championnat non plus. Là. Ton attaque, faut qu'elle soit capable de marquer plus qu'un touché par match quand même. Là.
Est-ce que j'ai le droit d'utiliser un ricochet, moi? Je peux-tu répondre Absolument. À une question par une question?
Ben oui.
Une règle non écrite de la radio. Est-ce que Cody Fajardo va bien?
Oui.
Il a l'air de s'être fait pas pire bobo aux côtes hier. Ça, c'est-tu failé, cassé, ou c'était juste je suis mal tombé puis un petit bleu puis on repart la semaine prochaine?
Je pense qu'on va le savoir au cours de la semaine, mais pour répondre à ma propre question, Greg, moi, je suis plutôt à 6. Note de passage, parce que oui, la défense joue du football exceptionnel, mais comme Oli l'a souligné, c'est extrêmement compliqué sur le plan offensif. Les Alouettes sont fragiles, ils jouent avec le feu, trouvent néanmoins le moyen de gagner. Mais faut pas oublier qu'en série, les gars, vous le savez, là, au football, c'est un seul match. Et est-ce que les Alouettes, présentement, ont l'aplomb pour battre Ottawa dans un match de finale de l'Est? Et ont-ils l'aplomb et la confiance pour ultimement pouvoir gagner une deuxième Coupe Grey en 2 ans? Je sais qu'on se projette loin, je sais qu'il reste beaucoup de football à jouer, mais les Alouettes ont marqué seulement 2 touchés hier, aucun de la part des receveurs et des porteurs de ballon. Ça fait 3-4 matchs maintenant que c'est fragile du côté offensif et je commence un peu à m'inquiéter. Je sais que avec Fajardo, avec Jason Mass, avec Danny Machiocia, ils ont les ressources pour trouver des solutions et pallier les faiblesses. Or, depuis 4 matchs, je trouve que c'est périlleux et je suis un peu moins confiant que je l'étais il y a peut-être un mois ou deux.
Nonobstant vraiment de l'état de santé de Fajardo, là, on verra plus tard cette semaine c'est comment ça se passe. Est-ce que tu penses que les Alouettes devraient peut-être considérer l'idée? Je sais que ça semble un peu fou, là, mais de réinsérer Davis Alexander dans la formation parce
c'est
que depuis
c'est
le retour
de la
depuis le retour de Cody Fajardo, l'attaque n'est plus aussi dynamique. Je comprends qu'il y a des blessures chez les receveurs, mais on sent vraiment une différence depuis que Davis Alexander n'est plus le partant et que Cody Fajardo est revenu de sa blessure.
Ta question est fort intéressante parce que c'est pas la première fois qu'on me pose la question. Le seul obstacle à ça, parce que j'aime beaucoup Alexander, parce que tu le sais, pour moi, Alexander, il est un quart arrière de chez quart arrière. Il est dans le moule des quart arrière que j'aime et qui sont capables de gagner. Il est motivé et je pense qu'il a les qualités et les capacités pour mener à terme à peu près n'importe quelle formation de LCF. Mais comme je le disais, le seul obstacle pour moi, c'est qu'il ne faut jamais oublier que Jason Mass et Cody Fajardo, c'est comme père et fils. Les deux sont arrivés ici pour jouer ensemble et pour gagner ensemble. Donc, je ne vois pas le jour où un Fajardo en santé serait tassé et laissé pour Alexander. Évidemment que c'est une alternative. Je ne suis même pas convaincu que les Alouettes y pensent présentement, mais c'est vrai que si Fajardo continue à être moyen, parce qu'hier, c'est 16 en 27, rien d'exceptionnel pour Fajardo. Mais oui, effectivement, c'est peut-être une option. La seule bonne nouvelle et la seule certitude, c'est que si, et je dis bien si, Fajardo se blesse, ben on a un deuxième corps qui est capable de livrer la marchandise.
Oui, ça, c'est très important dans une ligue comme la Ligue canadienne de football. Mais tu sais, rappelons-nous, là, il y avait des doutes sur Fajardo alors qu'il était à Toronto, si je ne m'abuse, alors qu'il était en Saskatchewan. Il y avait même des doutes quand il était à Montréal, jusqu'à ce fameux discours qui a commencé par un point sur, je me souviens plus quoi, là, son « F.U. Just Watch » et a mené les Alouettes jusqu'à la Coupe Grey. Tu sais, à un moment donné, les Alouettes, moi, hier, tu m'aurais posé cette question-là, je t'aurais dit 5 sur 10. Là, je suis plus autour de 7,8, mettons.
Oui, puis il ne faut pas oublier, Greg, c'est bien que tu le soulignes, que Fajardo, c'est un gagnant. On parle quand même du joueur par excellence en titre de la Coupe Grey.
Voilà.
Il a gagné deux matchs extrêmement importants. Oui, la Coupe Grey, il ne faut pas oublier le match à Toronto également. Fajardo, je pense là, présentement que c'est une passe un peu plus compliquée. J'ai espoir qu'il retrouve ses repères. Je suis convaincu que ça va arriver. Mais présentement, je trouve que la barque est un peu fragile là, dans le camp des
Alouettes. Il faut que une offensive là, au football, là, c'est réglé comme une montre suisse. Et là, OK, Austin Mack revient, c'est bien beau, là, mais ça vient changer un petit peu tout ce qu'on avait. Davis Alexander a repris cette offensive-là, on était réglé. Donc, il nous reste du temps pour ajuster le tout. Il va y avoir les blessés qui vont revenir éventuellement. On les a placés les deux pour la liste de blessés de 6 matchs, je crois. Ça n'a pas été aussi long que ça pour Cody Fajardo. On espère également que ce sera le cas, que les deux meilleurs receveurs reviennent en santé. Là, oui, on a fait le travail. Cody Fajardo trouve une façon de mener son offensive quand même pour aller chercher une victoire qui était importante sur la route. Alors, aujourd'hui, hier, je voyais le verre à moitié vide. Aujourd'hui, je le vois à moitié plein.
Puis, il faut jamais oublier non plus qu'on parle beaucoup de Fajardo, qui est le capitaine officiel de cette équipe-là. On parle beaucoup de Austin Mack, de son retour, qui était l'an dernier le receveur le plus important de la formation. Mais il ne faut jamais oublier non plus l'apport de Tyson Philpott, blessé jusqu'à la fin de l'année, qui est pour moi
le capitaine. Est-ce qu'il va revenir en éliminatoire, excuse-moi?
La question est bonne, j'ai pas la confirmation.
Okay.
Je ne sais pas. La vraie réponse, c'est que je ne sais pas.
Je la posais comme ça.
Mon point étant que Philpott, dans le vestiaire des Alouettes, pour côtoyer cette équipe-là quotidiennement, c'est un capitaine sans le C. Il a une énergie, il a cette espèce d'assurance, il a cette confiance et il a la confiance de ses coéquipiers également. Donc, oui, on parle de Mac, mais le héros de la dernière Coupe Grey, c'est Philpott et je pense que son absence présentement se fait sentir grandement chez les Alouettes.
Nick, maintenant, on reparlera bien sûr des Alouettes. On se verra au prochain match à domicile aussi, ça c'est certain. Mais là, on est toujours bien dimanche. Hein? Et là, tes nachos sont peut-être en préparation. Là, tu vas sortir le tout ski du frigo, tu vas mettre ça dans le four, ça s'en vient. Et il y a un match qui nous est présenté à RDS que je vais trouver fort intéressant. Il sera probablement pas à haut pointage parce que ça implique les Steelers de Pittsburgh à la maison. Mais c'est les Chargers de Jim Harbaugh, les Chargers également de Justin Herbert qui s'amènent dans la ville de l'Acier. Pas facile gagner là-bas.
Ouais, je suis content que tu aies mentionné Jim Harbaugh. Pourquoi? Parce que pour moi, ce duel-là, c'est le duel de deux entraîneurs de génie. Jim Harbaugh, Mike Tomlin, oui, Justin Fields, oui, Justin Herbert, oui, les défensives. Mais pour moi, la vraie bataille, la vraie guerre, elle sera entre les deux entraîneurs. Fiche de 2-0 à LA, fiche de 2-0 à Steelers. On sait que ces équipes-là ont plein de brèches, ont plein de trous. Mais la façon de gérer ces deux équipes-là de la part de Harbaugh et Tomlin, c'est exceptionnel. Je sais que tu aimes beaucoup Mike Tomlin. Tu sais que j'aime beaucoup Jim Harbaugh pour ce qu'il a fait à Michigan. Ce que j'aime de ces deux formations-là, c'est qu'on joue du football comme dans le temps. Des gardes de tranchées, sans flafla, la défensive gagne des matchs. Faut pas oublier, Greg, je regardais avant en préparant la chronique, les Steelers et les Chargers sont les deux équipes dans la NFL qui ont accordé le moins de points depuis le début de la saison. 13 pour LA, 16 pour Pittsburgh. Ces deux équipes-là font de l'or avec du sel.
Oui, certainement. Et tu sais, les Steelers mènent la division. Ils sont 2-0. Je pense que
Absolument.
personne ne s'attendait à ça non plus. Et j'ai hâte de voir. Et là, pendant que tu m'en parles, je vais juste me diriger sur Bet99 rapidement pour aller voir quel est l'over-under suggéré dans ce match-là. Donc, si vous me donnez un petit instant, je vais vous dire ça. Là, parce que tu amènes un 34,5. Hey, ça fait longtemps que j'ai pas vu un over-under aussi bas que ça, moi. Très honnêtement.
Oui, puis je trouve qu'on sous-estime, là je parle surtout des Steelers, on sous-estime un peu, je trouve, année après année, à quel point cette défensive est létale. TJ Watt, Fitzpatrick, deux trains, deux meneurs d'hommes. Et oui, je sais là, que Justin Fields, on en parlait en début d'année, Greg, au cours de l'été, est-ce que c'est Russell Wilson? Est-ce que c'est Justin Fields? C'est une question de temps avant que Justin Fields prenne le lead de cette équipe-là, si vous me permettez l'expression. Mais je trouve tellement que Mike Tomlin est capable de gérer. Puis la gestion de match des Steelers depuis le début de la saison, c'est pas une équipe qui marque beaucoup de points, c'est une équipe qui en arrache sur les troisièmes essais, c'est une équipe qui est en train de retrouver ses repères. Et je pense à George Pickens notamment. Mais Tomlin est un meneur d'hommes, il est capable de recentrer ses joueurs sur l'important, c'est-à-dire accorder moins de points que son adversaire. Et ils le font très bien depuis le début de la saison.
Et là, est-ce qu'on sait si Justin Herbert commence le match parce qu'il était amoché, notamment à la cheville là, la semaine dernière?
Selon ce que je regardais tantôt sur Fantasy Yahoo, oui, ce serait lui qui commencerait la rencontre. Je ne sais pas si ça va être un game time decision, comme on dit. Est-ce qu'il va être limité? Assurément. Mais Jim Harbaugh est capable, je pense, de pallier ces pertes-là. Il ne faut pas oublier là, que Harbaugh a fait de J.J. McCarthy un choix top 10 dans une équipe à Michigan qui était menée par la défensive et le jeu au sol. Donc, j'ai pleinement confiance en les capacités de Harbaugh.
Oui, et là, maintenant, est-ce que les Steelers vont remporter cette division-là? Je ne crois pas. Là, tu sais, dans le nord de l'AFC, j'ai-tu hâte de voir Hard Knocks, moi? Quand c'est, les Steelers sont 2-0, les Browns sont 1-1, et les deux autres, donc les Bengals et Ravens, sont 0-2. C'est certain que les Bengals et les Ravens resteront pas de cette façon-là, malgré qu'avec le début de calendrier des Ravens, là, on pourrait être 1-4, honnêtement.
Mais je pense qu'on va se reparler la semaine prochaine et que les Ravens seront 1-2.
Non, moi je pense qu'on serait au 3.
Je sais, j'ai entendu avec Richard, on s'est parlé hier aussi, mais pour moi, c'est impossible que Lamar Jackson et les Ravens, qui sont trop bien bâtis, Greg, tu le sais comme moi, pour avoir un début de saison de 0-3. Je sais que ça n'a pas été exceptionnel là, depuis le début de la saison, mais j'ai encore confiance en Lamar Jackson, peut-être même plus que toi. C'est impossible pour moi que ce joueur-là, qui est capable de changer un match à lui seul, avec les outils qu'il possède, de démarrer une saison 0-3. Les Cowboys, ils ont été fragiles, ils ont été un peu inconstants. C'est une défensive qui se tient. J'ai d'ailleurs la défensive des Cowboys dans mon fantasy. Mais c'est inconcevable pour
Déjà
moi,
là,
Greg,
sais-tu le pourcentage des équipes de la NFL à 0-2 qui réussissent à faire les éliminatoires?
c'est minime. C'est minime.
11,5%.
Ben voilà. Et Lamar Jackson pourrait devenir le premier récipient en titre du trophée de joueur par excellence à commencer une saison 0-3.
Ouais, puis là,
Mais
on
il y a
va
trop.
continuer de le blâmer lui, alors que personne va parler de Todd Monken et de John Harbaugh. John Harbaugh, tu le sais, que je porte dans mon cœur depuis qu'il est coach des Ravens.
Mais tu demandes sa tête quand même.
Mais là, comme on le dit dans Batman, tu te souviens bien sûr de ce film mythique de 2008, Batman The Dark Knight, Le Chevalier Noir, dans lequel Harvey Dent qui dit, en français, là, soit tu, on va dire en anglais, ça va être plus simple, là, you either die the hero or you live long enough to see yourself become the villain. Alors, soit tu sors en héros ou tu restes assez longtemps pour te voir devenir le vilain. C'est ce qui est en train d'arriver avec John Harbaugh. Rapidement, en une minute, mon ami, tu voulais glisser un petit mot sur la Coupe des présidents. Tu seras très occupé là-dessus, toi, cette semaine.
Je serai là toute la semaine au Royal Montréal et je veux absolument que les auditeurs qui nous écoutent comprennent à quel point ce qui s'en vient à Montréal, C'est gigantesque. C'est l'équivalent de la Coupe Ryder, sauf que cette fois, c'est les Américains contre le reste du monde. Scottie Scheffler, Xander Schauffele, les deux joueurs les plus dominants de la planète en 2024, seront de passage à Montréal. De l'autre côté, oui, l'avantage est aux Américains. Néanmoins, Matsuyama, Kim, Scott, Jason Day seront en ville. Les Canadiens également. Mike Weir parle depuis plus d'un an de l'importance de la chimie de cette équipe-là, qui est un peu dépareillée. Mais quand même, ce sera un duel intéressant et ce sera surtout les meilleurs joueurs de golf au monde.
Merci, Nick. Bonne Coupe des Présidents. Ça veut dire que malheureusement, on se parlera pas le week-end prochain. Moi, je serai en direct du Fan Jam à la Place Ville-Marie. Je suis allé voir le terrain, les installations vendredi. J'ai été impressionné. Pas possible. Alors, on va peut-être se voir là-bas. Mais malheureusement, tu vas prendre une semaine de congé du tailgate. C'est pas grave. On va te remplacer de brillante façon, mon chum. D'ici là, prends bien soin de toi. Bonne semaine. Profite-en. Puis déjà hâte de te retrouver ici avec nous dans le tailgate week-end.
Allez, bon football.
Salut. Au revoir. Lui qui nous parle de Saint-Jérôme, le Monaco du Nord. Monaco de la Rive-Nord. Merci d'être avec nous encore une fois. On revient sur des interventions que nos experts football, on a ri de moi. Là. Honnêtement, là, je mange une tape cette semaine, un peu partout dans la grille, par mes chums de BPM Sports. Ça me fait grand plaisir. D'ailleurs, on va en reparler dans deux minutes. Merci d'être avec nous autres encore une fois. Comment ça va vous autres à Montréal? Textez-nous, vous nous écoutez de où? 514-790-0919, on vous revient.